وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé comme miséricorde pour l'univers tout entier, pour les êtres humains, pour les animaux et pour les plantes. Ainsi, un homme est venu l'aborder en lui disant « Ô messager de Dieu, je n'arrive pas à sacrifier la bête le jour de l'Aïd. » Vision du sang, égorger un animal, lui ôter la vie, pour lui c'était quelque chose d'impensable. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre « Dieu sera miséricordieux avec toi comme tu l'es avec cet animal. » Et cet homme sensible n'arrivait pas à pratiquer une sunna qui est le jour de la fête du sacrifice d'égorger un mouton ou une autre bête. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas condamné, au contraire. Il a mis en évidence ce caractère noble qu'avait cet homme de la pitié, de la compassion, de l'amour envers un mouton. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit « Comme tu es avec cet animal, Dieu sera avec toi, plein d'amour et de compassion. N'égorge pas de mouton. Tu n'arrives pas à l'égorger parce que tu es trop sensible, alors ne le fais pas. » Voilà le message de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est miséricordieux et il pousse les gens à quoi? À être et à rester miséricordieux et non pas à se forcer à faire des choses qui sont contre leur nature. Celui qui ne peut pas, qui ne sait pas, qui n'arrive pas à égorger un mouton le jour de l'Aïd, ce n'est pas la fin du monde. Il n'a pas commis de péché. L'islam ne s'arrête pas à cet acte. Et en plus, c'est juste un acte surérogatoire et non pas un acte obligatoire. Et aujourd'hui, on a de la chance. Walillah alhamd. Nous avons des associations humanitaires qui font le travail à notre place. Il suffit de faire un virement bancaire au Secours islamique, au CBSP, et la bête sera sacrifiée dans le pays que vous choisirez pour que la viande aille à ceux qui sont dans le besoin. Ainsi, notre religion est la religion de la miséricorde, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours eu le souci de tendre la main aux autres pour les sauver de la misère dans laquelle ils sont. Regardez ce qui va lui arriver. Il revient de l'expédition de Tabouk et dans son armée il y a des hypocrites. Et si vous lisez le Coran avec attention et analyse, vous verrez qu'il y a deux sourates qui parlent des hypocrites. La sourate 9, Tauba, et la sourate les hypocrites, c'est comme ça qu'elle se nomme. Et bien entendu, d'autres passages dans d'autres sourates font allusion aux hypocrites. Parce que l'hypocrisie et les hypocrites sont le cheval de Troie qui, dans notre communauté, font des dégâts parfois irréparables. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours eu le souci de les combattre avec intelligence pour éviter des dégâts. Ainsi, de son retour de l'expédition de Tabouk, les hypocrites, eux, ont décidé d'attenter à la vie de notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, qui, vous le remarquerez, on est en l'année 10 de l'Hégire, l'année 9, pardon, aurait très bien pu depuis longtemps déjà ordonner leur exécution. Mais il ne l'a pas fait. Si le prophète l'avait voulu, depuis longtemps, les hypocrites auraient été arrêtés, jugés et exécutés pour leurs méfaits. Mais le prophète ne l'a pas fait. Malheureusement, ça ne les a pas poussés à changer d'opinion et d'avis. À se dire que cet homme, malgré tout ce qu'on lui fait, il est bon, il est miséricordieux. Alors il décide, et ça ne sera pas la dernière fois, d'attenter à sa vie. Alors que le prophète est en haut d'une colline, au milieu de la nuit noire, accompagné uniquement de deux de ses compagnons, Ammar ibn Yasir et Hudayfa ibn al-Yaman, un groupe de 13 hypocrites se dirige vers lui et arrivé en haut de la colline, il décide de le faire culbuter pour qu'il tombe et qu'il s'écrase. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a senti que ces gens-là étaient mal intentionnés et il va ordonner à Ammar et à Hudayfa de le repousser chose qu'ils vont bien faire. Et ensuite, le prophète leur demande, est-ce que vous les avez reconnus? Non, lui dirent-ils, parce qu'ils avaient le visage couvert. Et c'est ça un hypocrite. Il ne parle pas à visage découvert. Il se cache, parce qu'il a des choses à se reprocher. Donc, ils avaient le visage couvert, et ils ont fui comme des lâches, car ils ont dit, mon Dieu, on va être pris la main dans le sac. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Hudhayfa et Ammar, est-ce que vous les avez reconnus? Non, dit le prophète, si ce n'est que, dit Ammar, je suis capable d'en distinguer deux, parce que j'ai reconnu leur monture. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Hudhayfa, prends de quoi écrire et il va lui donner le nom de ces 13 personnes. Il lui dira, tu gardes secret cette liste et tu surveilles ces 13 personnes afin qu'il n'ait pas des postes importants, sensibles, dans l'appareil de l'État islamique de l'époque. Et Omar ibn al-Khattab, quand il deviendra calife, il aura toujours Hudhayfa à ses côtés, car il savait, tout le monde savait que Hudhayfa avait un secret d'État. Il connaissait le nom des meneurs parmi les hypocrites et qu'il ne fallait absolument pas que ces hypocrites puissent porter atteinte à l'islam. Ammar dit, ô messager de Dieu, puisque tu les connais par le biais de la révélation, tu viens donner les noms à Hudhayfa, donne-nous le feu vert et l'autorisation pour les arrêter, les juger et les assassiner, les condamner à mort. Parce que ce sont des criminels de guerre. Et c'est ce qu'ils méritent, car ce n'est pas le premier de leurs méfaits. Réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, non, laissez-les. Car je crains, j'ai peur que les gens disent « Mohammed assassine ses compagnons ». Ainsi, à nouveau, ces hypocrites vont profiter de la bonté, de la miséricorde, mais aussi de l'intelligence et de la stratégie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ne veut pas que l'ennemi récupère l'exécution de ses traîtres pour salir l'image de l'islam. Vous vous rendez compte, la concession, elle est magnifique, vous ne trouvez pas? Des traîtres, des ennemis, la cinquième colonne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'abstient de les exécuter, car les exécuter va être récupéré médiatiquement, politiquement, par les détracteurs de l'islam, afin de salir l'image du prophète, afin de salir l'image de l'islam, donc faire fuir et faire peur aux gens. Faire fuir les gens de l'islam en leur faisant peur, car le musulman sera automatiquement assimilé à quoi? À un criminel, à un sanguinaire. Et le prophète sera assimilé à quelqu'un qui ne respecte pas l'intégrité de l'être humain, même de ses proches, de ses adeptes. Ainsi, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a toujours eu le souci de ne pas dire et de ne pas faire ce qui pourrait faire peur et faire fuir les gens. En d'autres termes, nous sommes tous responsables, ici, de ce que nous faisons et de ce que nous disons, parce que nous sommes musulmans, donc nous sommes des ambassadeurs de l'islam. Il est écrit sur notre front que nous sommes musulmans. Ce que vous ferez de mal, ce que vous direz de mal, ce que vous ne ferez pas de bien, sera récupéré par les hypocrites et par les ennemis de l'islam pour salir votre religion, afin que les gens vous craignent et finissent par la suite par vous rejeter, vous combattre, et ils vont tout faire pour que les gens n'adhèrent pas à l'islam. Ainsi, ne croyez pas que nous ne sommes pas responsables de ce qui se passe aujourd'hui. Non pas en France, mais dans le monde entier. Vous avez bien vu, ce qui se passe à des milliers de kilomètres a un impact sur nous. Vous êtes bien d'accord, ce qui s'est passé la semaine dernière en Algérie, ce qui s'est passé en Irak ou en Syrie, a un impact direct sur nous, puisque c'est récupéré par des gens sincères ou malhonnêtes, mais surtout par des gens qui ont un objectif clair et net, c'est de vous diaboliser. En utilisant des actes répréhensibles commis par des musulmans ou des hypocrites, l'habit ne faisant pas l'imam. Et le résultat, c'est quoi? C'est que les gens nous stigmatisent l'islam, les gens nous craignent. Et la meilleure façon de diriger, c'est d'utiliser la peur. Parce qu'en utilisant la peur, vous allez faire passer des lois qui jamais ne passeraient si tout allait bien dans le pays. Des lois d'exception. Et c'est exactement ce qui s'est passé en 2001 aux États-Unis après le 11 septembre. Ils ont voté une loi qui s'appelle le Patriot Act aux États-Unis, qui permet l'arrestation de toute personne suspectée d'être un terroriste, entre parenthèses, un musulman. Vous entendez? Le terme terroriste signifie aujourd'hui, parce que ça a été voulu, ça a été conçu, musulman, le mettre en prison sans le juger pendant 10 ans, pendant 15 ans, Guantanamo et d'autres. Et à la fin, après 15 ans de procédure, si vous retrouvez au tribunal, écoutez bien, ils ne sont pas tenus d'apporter les preuves de votre terrorisme. C'est-à-dire que vous ne pouvez rien faire. Vous allez croupir en prison, et c'est le cas aux États-Unis, et ça arrive en Europe. La chasse aux sorcières a commencé médiatiquement, elle va se terminer juridiquement, avec des lois. Et c'est exactement ce qui s'est passé en 1989. Affaire du foulard numéro 1 à Creil, ensuite en cascade, affaire du foulard. Et pendant 15 ans, on matraque le peuple français pour qu'il accepte le 15 mars 2004 une loi scélérate, infâme, la loi contre le port du foulard. Elle est passée comme une lettre à la poste puisque la majorité écrasante de nos députés l'ont votée, alors qu'elle est anticonstitutionnelle et tout ce que vous voulez. Non. Vous savez qu'est-ce qu'elle est cette loi? Elle était nécessaire et obligatoire car la France était en danger. Qui c'est qui l'a mise en danger? Un foulard. Qui c'est qui est derrière le foulard? Des islamistes, intégristes, fondamentalistes, terroristes. C'est la même stratégie, elle continue. Et elle n'est pas prête de s'arrêter. Vous savez pourquoi elle n'est pas prête de s'arrêter? Parce qu'il n'y a personne pour l'arrêter, tout simplement. Il n'y a personne pour dire « basta, il y en a marre ». Il n'y a personne pour agir intelligemment. Et ne croyez pas que ça n'arrive qu'aux autres. Les États-Unis, statut de liberté aux États-Unis, le pays des droits, je ne sais trop quoi. On est en train de préparer l'inconscient et le conscient et le subconscient de la population européenne, et c'est même plus français. Pourquoi? Pour que demain l'injustifiable soit acceptable. Vous allez me dire, c'est de la faute à qui? On a des tarés parmi nous. On en a. Et ils ne datent pas d'aujourd'hui, ils datent des premiers temps de l'islam. Et un malade ne demande pas sa religion à celui qu'il veut tuer. La preuve, ces gens-là, les premiers qu'ils ont exécutés, ce sont les compagnons du prophète. Ils arrêtaient des compagnons, ils les tuaient, parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec eux. Donc attention, ces gens-là, leur souci, c'est pas « t'es musulman, t'es pas musulman », c'est qu'ils sont animés par la haine, ou par la folie, ou par des convictions et des idées obscurantistes. Nous avons parmi nous des hypocrites, vous entendez, qui créent des problèmes dans la communauté. Oui, l'habit ne fait pas l'imam. Troisièmement, nous avons des ennemis qui ont des objectifs. Ils sont nombreux, des objectifs économiques, géostratégiques, c'est ça ? Mais des objectifs tout simplement philosophiques, spirituels. Oui, Dieu le dit dans le Coran. Il jalouse cette religion parce que cette religion gagne le cœur des gens. Hasadan min indi anfusihim. Il y a des gens qui ne supportent pas la pluralité, la diversité. Ainsi, il ne faut surtout pas laisser l'islam vivre en paix parce que quand il y a la paix, il y a le dialogue, il y a l'échange, il y a le vivre ensemble. Avec tout ce qu'on dit de nous, de vrai et de faux, les gens se convertissent à l'islam. Imaginez-vous le jour où on arrêtera de dire du mal de nous, du faux, et au contraire on dira du bien de nous et la vérité. Qu'est-ce qui va se passer ? Ben écoutez, il y a des gens qui ne dorment pas la nuit parce qu'ils sont hantés par ce qu'ils appellent le péril vert. Oui, ils l'ont défini comme ça. Nous sommes un danger. Mais le vrai problème, vous savez c'est quoi ? C'est l'état de notre communauté. Quand je dis notre communauté, c'est la majorité. Je ne vous parle pas des brebis galeuses. Je vous parle de la majorité des musulmans qui sont spectateurs et qui attendent la guillotine. La guillotine politique, elle est là. La guillotine psychologique est là. Il y aura de plus en plus d'injustices. Qu'est-ce que vous attendez pour agir avec intelligence ? Vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce qu'on doit faire ? Très bien. Si on en est arrivé à ce niveau-là, alhamdoulilah, on a fait la moitié. C'est-à-dire, si les musulmans prennent conscience qu'ils sont responsables et qu'ils doivent agir, on a gagné. Puisque, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est facile. Il faut d'abord vouloir faire pour pouvoir faire. Parce que si je vous dis ce qu'il faut faire et vous n'êtes pas convaincu, ben vous ne le ferez pas. Vous ne le ferez pas. Sommes-nous réellement convaincus qu'à titre personnel, nous avons des devoirs vis-à-vis de notre religion ? Oui, nous en avons. Alors, je ne vais pas vous dire il faut bien se comporter parce que vous comportez bien. Alhamdoulilah, la majorité des musulmans, comme vous fervents, ont un très bon comportement. Respectez la loi, vous la respectez. D'ailleurs, si vous ne voulez pas la respecter, n'ayez crainte, la loi, c'est se faire respecter. Non, ce n'est pas ça que je vais vous dire. Je vais vous dire d'être des citoyens. Parce que c'est ça notre problème. On n'a pas compris que notre société, elle est bien gérée. Et si on ne participe pas à la gestion de notre société, ben elle est gérée par d'autres personnes. Pourquoi sommes-nous absents des sphères de décision, des sphères de discussion? Pourquoi est-ce qu'on est absent? Là où ça se discute, ça se pense, et ensuite ça se traduit en action, pourquoi est-ce qu'on est absent? Vous avez tous entendu hier, avant-hier, hein, la polémique, Madame Chirac soutient Sarkozy, Monsieur Chirac soutient Juppé, n'est-ce pas? Pourquoi? Pour les primaires de l'UMP, parce que maintenant il faut décider en amont de celui qui va représenter l'UMP, les primaires existent aussi chez la gauche, et regardez, la bataille a commencé. Qui va gagner ? Ouais. Est-ce Juppé ou est-ce Sarkozy ? Regardez, la discussion a commencé, on n'y participe pas. Et deuxièmement, quand il va falloir décider du prochain président de la République, donc du prochain Parlement français, la majorité des députés qui votent les lois, qui les défont, et c'est en cascade, quand il va falloir décider, est-ce qu'on sera présent ? Mais on ne sera pas présent. À nouveau, le président, les députés, les sénateurs, tous ceux qui font la pluie et le beau temps en France, vont être choisis par autrui. Et le premier qui leur dira, écoutez bien, je m'occupe des égorgeurs, le problème en France c'est l'islam, croyez-moi qu'il va passer. Et ça sera de notre faute parce qu'on ne participe pas au processus. Donc, Allah ybarak fikoum, on ne va pas le dire si on ne cessera de le dire jusqu'à ce que les musulmans bougent. On ne va pas se fatiguer de parler. Mais sortez, Inch'Allah, de cet trottement en vous mettant dans la tête que, Wallah, si aucun d'entre nous ne décide d'agir localement, sachez que d'autres agissent. Et ils agissent bien, et ce n'est pas du tout en notre faveur. Il y en a marre de se faire taper dessus et d'accepter cette posture de celui qui rase les murs. On n'a rien à nous reprocher. On ne s'est pas fait l'avocat du diable, on ne se fera jamais l'avocat du diable. Un musulman qui commet une injustice, nous le condamnons. Mais pourquoi est-ce que vous ne condamnez pas ceux qui commettent une injustice flagrante, la diabolisation de l'islam? Les médias dépendent des politiques. Les médias dépendent de ceux qui ont le fric. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une loi contre l'islamophobie? On est en train d'appeler à la haine de l'islam et du musulman et vous dormez tranquille. Défendez-vous avec les armes de la loi. Faisons voter une loi contre l'islamophobie. Mais pour faire voter une loi contre l'islamophobie, il faut exister politiquement pour faire pression sur nos hommes politiques. Vous savez qu'on tourne en rond? On revient toujours au même problème. On est absent de là où ça discute, là où ça se décide. Donc j'espère, Inch'Allah, que demain, pour ceux qui vont sacrifier le mouton de l'Aïd, vous allez offrir une partie de votre mouton à votre voisin, en lui disant, nous on égorge des moutons et pas des êtres humains, et on offre en cadeau une partie du mouton à nos voisins. Et n'écoutez pas les fêlés du cerveau qui vous disent c'est haram. Ouais, le mouton de l'Aïd doit être mangé par un musulman, c'est ça? Ouais, t'as pas le droit de donner à ton voisin qui n'est pas musulman une partie du mouton. Parce que ces gens-là n'ont malheureusement qu'une compréhension simpliste de l'islam et ils poussent justement à la haine de l'autre. Donc donnez votre mouton, donnez une partie de votre mouton, faites le Aïd, pas uniquement tout seul, mais avec les autres, ne serait-ce que pour diminuer un peu cette tension qui existe entre les musulmans et l'islam. Une personne a fait une sadaqa à la mosquée, nous demande de faire des invocations pour sa fille Zahra, afin qu'elle réussisse, Inch'Allah, dans la vie d'ici-bas et celle de l'au-delà. De même que des parents nous ont écrit et nous ont demandé de faire des invocations pour leur petite fille qui est gravement malade. Son pronostic vital est déclenché. Ils nous demandent, vous demandent à vous tous, chers musulmans, de prier pour les parents, pour qu'ils aient la patience et pour cet enfant aussi, pour qu'ils s'en sortent, Inch'Allah. اللهم اشفها وعافيها اللهم ارزق لأهلها الصبر والسلوان اللهم وفقها لما تحب وترضاه اللهم ارزق لها الخير في الدنيا والآخرة اللهم اهدي أولادنا اللهم اجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اجعلنا من الذين يعملون بما يقولون ويخلصون عندما يعملون آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين